Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Il y a deux siècles, jour pour jour, commençait la retraite de Russie dans laquelle allait s'abîmer la grande armée de Napoléon. Et Franck Ferrand nous propose aujourd'hui sur Europe 1 de célébrer ce bicentenaire. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en juin dernier, au cours d'une émission sur la campagne de Russie, voici ce que je disais à ce même micro. Alors, il est 13h55 même passé, donc je vous propose de ne pas entrer dans ce qu'on appelle la retraite. Donc on fera une émission spéciale sur en temps utile, hein, c'est-à-dire en octobre-novembre prochain, quand on sera pour le au moment pile du bicentenaire de cette grande retraite de Russie. On parlera de la retraite elle-même, de la Bérézina, de tous ces événements qui ont alors vraiment marqué l'inconscient collectif, en tout cas en France.
Eh bien, vous tenez parole, Franck. Ce jour-là, vous aviez invité Marie Pierret et Jacques-Olivier Boudon.
Eh bien, je les ai réinvités aujourd'hui. Vous savez ce qu'on dit, on ne change pas une équipe qui gagne.
Exactement.
Nous allons donc reprendre la conversation exactement où nous l'avions laissée. Ce que nous allons revivre ensemble maintenant, c'est une des plus grandes catastrophes militaires de tous les temps.
De 13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Entre l'empereur et le tsar avait été déclaré le 22 juin 1812. Contre l'immense empire d'Alexandre Ier, c'est l'empire surpuissant de Napoléon Ier qui se dressait, celui de la plus grande France. On en a parlé de tout ça évidemment au tout début de l'été. On aurait pu penser, et à Paris nombreux étaient ceux qui pensaient, que les Français n'allaient faire qu'une bouchée des Russes. La masse d'invasion napoléonienne répartie en 8 corps d'armée et 4 corps de cavalerie plus la garde devait fondre au départ comme un dragon sur des armées russes qui avaient eu l'idée de se déployé en un immense cordon de plus de 400 km. Le grand stratège, le nôtre, avait prévu une manœuvre magistrale d'enfoncement puis d'encerclement, manœuvre qui en fin de compte à Vilna échouera du fait de certaines incohérences et retards dans le commandement français, mais aussi et surtout du fait de la décision du général Bagration en face de retirer ses forces vers l'est en ordre dispersé. Loin d'avoir écrasé les armées russes comme il l'espérait, Napoléon est alors réduit à devoir entreprendre une sorte d'aventure vers l'est. Il prend la route, il s'enfonce en Russie, une Russie de plus en plus désolé par la tactique de la terre brûlée. Smolensk tombe le 7 août, les Français sont à Moscou le 13 septembre, peu de jours après le glorieux mais vain duel d'artillerie de Borodino. Or, c'est une cité en flammes, embrasée sur ordre du gouverneur Rostopchine, que découvre Napoléon. Je laisse, comme je l'avais fait lors de la première partie de cette émission, si je puis dire, je laisse la parole au maréchal Juin. Napoléon, fuyant les flammes, fut mis dans l'obligation d'aller chercher refuge dans un château des environs, en attendant que l'incendie s'éteignit de lui-même après avoir détruit les trois quarts de la ville. Toujours irrésolu, il s'obstine à rester à Moscou, redoutant l'effet que produirait en Europe sa retraite. Il y demeure plus d'un mois, cherchant le contact avec Alexandre à Saint-Pétersbourg, autant pour lui faire de vifs reproches que pour lui tendre la main avec l'espoir d'en finir par un arrangement avec lui. Mais le tsar reste ferme dans sa résolution, soutenu par deux étrangers, Bernadotte, un Français qui l'incite à la résistance, et Stein, un Allemand exilé de Prusse par Napoléon et devenu depuis lors le mentor du tsar. Quant au temps, il ne devait pas non plus prendre parti pour Napoléon. Celui-ci, qui s'illusionnait sur la durée des beaux jours et trompait son attente en révisant les statuts de la Comédie française, vit l'hiver de 1812 arriver 5 semaines trop tôt. L'empereur dut quitter Moscou, chassé à la mi-octobre, le 19 octobre exactement, par une chute de neige et de fortes gelées. Et comme on avait épuisé toutes les ressources sur la route de Smolensk suivie à l'arrivée, il chercha à rétrograder par une route nouvelle plus au sud, par Kalouga. Mais Kutuzov, qui le surveillait et n'était pas inactif, l'arrêta à Maloyaroslavetsk. Alors on va essayer de le dire. À Maloyaroslavetsk, le 24 octobre, il fallut revenir sur Smolensk et la retraite allait commencer. C'était un calvaire.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Avant votre récit, Franck, nous vous retrouvons donc avec Marie-Pierre Rey, qui est professeure d'histoire russe et soviétique, auteur notamment de l'effroyable tragédie, une nouvelle histoire de la campagne de Russie et d'une biographie consacrée au tsar Alexandre Ier, disponible chez Flammarion. Également avec nous, Jacques-Olivier Boudon, qui est professeur d'histoire contemporaine, président de l'Institut Napoléon et auteur de Napoléon et la campagne de Russie 1812 chez Armand Collin.
Alors bonjour à tous les deux. Bonjour. C'est amusant de reprendre cette conversation plusieurs mois plus tard. Mais enfin, vous avez pendant ce temps, nous avons parlé de bien d'autres sujets. Mais vous êtes resté, si je puis dire, sur cette campagne. Et l'un comme l'autre, vous nous arrivez de Saint-Pétersbourg où avait lieu un colloque sur le sujet, Marie-Pierre Rey.
Absolument, un très beau colloque franco-russe où nous avons donc de nouveau évoqué cette question avec de nouvelles approches tout à fait intéressantes et stimulantes.
Et vous nous disiez, enfin juste avant que ne commence cette émission, que à Moscou se tenait juste avant le colloque de Saint-Pétersbourg une grande réunion. Justement, également un colloque, c'est ça,
une grande... Oui, une très grande conférence qui a réuni plus de 80 chercheurs qui travaillent donc sur des questions portant sur 1812 ou 1812-1814. Autrement dit, ce sujet continue de passionner les Russes aujourd'hui.
Vous dites continue parce qu'on sait évidemment la passion napoléonienne du peuple russe, notamment du fait de Guerre et Paix et de Tolstoï. Mais semble-t-il, le regard est plus critique maintenant.
Alors, il est plus complexe en réalité parce qu'il y a eu une vague de grand intérêt pour Napoléon, une sorte de vision assez romantique de Napoléon qui a été portée par certaines catégories, certains intellectuels russes. Et puis aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de vision plus nationale, voire nationaliste. Et l'image de Napoléon, évidemment, en souffre quelque peu.
Jacques-Olivier Boudon, vous étiez vous ensuite, après le colloque de Saint-Pétersbourg, à Vilnius, c'est ça ?
En fait, j'étais à Minsk, en Biélorussie, pour présenter un livre que j'avais écrit il y a quelques années, Napoléon expliqué à mes enfants, qui a été traduit en russe. Et je me suis rendu compte que les Biélorusses étaient eux aussi tout à fait passionnés par la figure de Napoléon, par l'homme, par cette ascension sociale, et évidemment passionnés aussi par tout ce qui s'est passé près de Minsk, notamment à la Bérézina.
Alors le retour de Russie en Airbus est relativement confortable, il faut le dire. Le retour de Russie avec Napoléon et au milieu de la Grande Armée, ça a été une toute autre histoire. Il faut peut-être que nous revenions là où nous en étions, c'est-à-dire nous étions à Moscou. Oui. L'incendie s'éteint peu à peu, il faudra très longtemps d'ailleurs.
Il ne s'éteint que le 19 septembre, grâce à la pluie qui s'en mêle.
Et la pluie qui s'en mêle annonce la mauvaise saison, ce qui fait que Napoléon doit songer à rentrer. Tout ça est très contraire aux plans initiaux qui étaient les siens, il faut bien le rappeler.
Oui, et en réalité, il est contraint de rentrer parce que pour deux raisons essentielles. La première, c'est qu'il n'y a pas finalement d'issue. Étant à Moscou, il pensait que Alexandre Ier, ayant un genou à terre, serait contraint de négocier. Or, Alexandre Ier se refuse à toute négociation. Il oppose une fin de non-recevoir aux différentes tentatives de négociation que propose Napoléon. Donc c'est une forme d'impasse. Et puis le second problème, c'est que Napoléon voit ses courriers être de plus en plus souvent interceptés par des Cosaques. Il est sans nouvelles de Paris et du coup, évidemment, il s'inquiète. Et d'ailleurs, il a raison de s'inquiéter puisque en son absence, il y aura eu cette tentative de coup d'État, certes ratée, mais quand même inquiétante, du général Mallet.
Oui, c'est cet épisode tragicomique que nous avions tiré un peu à la farce ici même il y a quelque temps, mais qui en même temps est terrible puisqu'il va aboutir à l'exécution d'une bonne douzaine de conjurés. Ce coup d'état manqué d'un général qui vivait dans une maison de repos et qui d'un seul coup décide de faire croire à la mort de Napoléon à Moscou.
Hein. Ce qui prouve d'ailleurs que les Français n'étaient pas beaucoup mieux informés de ce qui se passait en Russie.
Et les liaisons étaient coupées, disons-le.
Les liaisons étaient très largement coupées. D'abord, il faut plusieurs semaines pour que les courriers passent. Ce sont souvent des auditeurs au Conseil d'État qui portaient les courriers officiels et eux-mêmes ont du mal à franchir la limite des Cosaques et aussi des partisans, paysans armés qui se sont mobilisés pour faire pièce à l'armée française. Donc effectivement, les difficultés de liaison sont très grandes et c'est ce qui explique en partie l'opération Mallet qui ne peut fonctionner que parce qu'on ignore ce qui se passe en Russie et que l'hypothèse de la mort de Napoléon est loin d'être une hypothèse fantaisiste en octobre 1812.
Et donc effectivement, quand tous ces hauts responsables de la police, de la garnison parisienne, etc. apprennent la mort de Napoléon et Senatus consulte à l'appui, on peut comprendre que certains se soient laissés berner. En attendant, Napoléon a raison de s'inquiéter, il veut retourner à Paris, il va d'ailleurs beaucoup plus tard laisser la grande armée derrière lui pour rentrer encore plus vite. Nous n'en sommes pas là. Quand et comment décide-t-il de quitter Moscou, Marie-Pierre Rey ?
Quelques jours, deux jours en fait avant son départ, deux, trois jours. Il y pensait à vrai dire depuis plusieurs jours, mais la décision est prise relativement précipitamment, au point d'ailleurs que beaucoup ne seront pas prêts au départ. Et c'est ce qui va également compliquer en réalité la retraite, parce que Napoléon a hésité à rester à Moscou, y prendre ses quartiers d'hiver ou finalement repartir pour les raisons que l'on a évoquées. Et en réalité, donc, lorsqu'il se met en route, il a l'espoir que ce retour se passera relativement bien, puisqu'il fait encore relativement doux à ce moment-là à Moscou. Mais la retraite va s'avérer d'une complexité folle et tourner au calvaire, en particulier, et là je pense qu'on va y revenir, parce qu'il ne pourra pas prendre la route qu'il escomptait prendre et sur laquelle finalement il avait fondé ses espérances.
Il voulait reprendre la route, le chemin aller au départ ?
Alors il voulait prendre une route en réalité située plus au sud, qu'on appelle la route de Kalouga.
De Kalouga, oui.
Voilà, qui avait été donc vierge de toute dégradation et qui aurait donné à ses soldats de quoi se nourrir correctement pendant le retour. Mais hélas, pour lui, les armées russes, qui évidemment veillent au grain, vont s'interposer sur cette route et contraindre Napoléon à reprendre la route prise à l'aller.
C'est donc bien un piège dans lequel Napoléon est tombé avec sa grande armée.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Sur Europe, un extrait de la messe solennelle de Beethoven.
Franck. On est exactement dans l'époque, mais pour ce qui est de la gloire, elle est plutôt du côté russe à ce moment-là, car très tôt, Jacques-Olivier Boudon, on se rend compte que ça se passe très mal pour les Français. L'intendance ne suit pas, pour le coup.
Le problème de l'armée française qui quitte Moscou le 19 octobre 1812, c'est qu'elle est déjà très désorganisée. Tout le monde, tous les témoins ont décrit cette masse de 100 000 hommes encombrés de voitures. Il y a près de 40 000 voitures où l'on a entassé tout ce que les soldats ont pu piller.
Vous imaginez la gigantesque masse en mouvement que ça peut représenter.
C'est une masse tout à fait considérable. Et encore, tous les soldats ne sont pas à ce moment-là partis, puisqu'il y en a encore quelques-uns sous les ordres de Mortier qui tiennent le Kremlin après les ordres de Napoléon. Donc, c'est une masse considérable, forcément désorganisée. Les routes sont encombrées, donc l'intendance ne peut pas suivre. Et pourtant, Napoléon a fait des efforts. Il a fait des efforts pour faire en sorte que le long de la route, il y ait des postes de ravitaillement. Mais on verra par exemple à Smolensk qu'il y a des provisions, mais aucune organisation pour les distribuer aux soldats. Donc ces soldats qui n'ont pas d'approvisionnement, que font-ils ? Ils sont obligés d'aller très loin puisque la route a été largement pillée à l'aller ou a été brûlée. Et donc il y a peu de ravitaillement. Il faut aller de plus en plus loin pour chercher du ravitaillement, aller en maraude, comme on dit, aller fourrager. Donc on envoie des groupes plus ou moins nombreux de soldats. Et ce sont la proie facile pour les Cosaques, pour ces bandes de paysans que l'on évoquait, qui vont d'ailleurs susciter beaucoup d'intérêt dans l'historiographie russe et surtout soviétique par la suite, que ces paysans armés qui se lèvent contre les armées de Napoléon. Donc des conditions extrêmement difficiles.
Et il faut ajouter. Et ça dès le début.
Dès
ça,
le début. Oui. Il faut ajouter enfin que cette armée, elle n'est pas en bon état sanitaire, physique. Elle a vécu déjà plusieurs mois dans des conditions très difficiles depuis l'été. Il y a énormément de malades, d'ailleurs des malades près de 60 000 qui vont quitter.
Ils sont malades de quoi ?
Alors, ils sont malades d'épidémies, typhus, infections diverses. Enfin, il y a différents affaiblissements général.
Bien
Beaucoup
sûr.
Sont simplement très affaiblis, épuisés. Et ce sont évidemment les premières cibles du froid lorsque celui-ci va arriver, de la malnutrition, du manque de nourriture.
Le froid est venu très tôt, particulièrement tôt cette année-là, ou c'était normal ?
Non, il n'est pas venu très tôt. En fait, il est venu, puis ensuite les températures se sont radoucies. Par contre, il sera terrible, au sens où on va descendre jusqu'à moins 37 la première semaine de décembre, ce qui évidemment est de l'ordre de totalement insupportable pour des hommes dont la plupart n'ont même pas de gants, d'écharpes, de bonnets, de chaussures fourrées. Donc, ils ont même pas de manteau non plus. Donc, c'est ça qui va être terrible.
On se rend bien compte compte que cette aventure terrible est d'abord une affaire humaine. Ce sont les hommes qui souffrent là, vraiment. Ce sont des souffrances multiples de tous ordres. On souffre de la faim, on souffre de maladies, on souffre du froid, d'épuisement. Il faut surtout pas oublier cet aspect-là parce que les hommes sont chargés. Oui. Il faut aider le bétail qui lui-même est de plus en plus éthique. Tout ça est extrêmement pénible.
Ils portent sur leur dos presque 30 kilos.
C'est ça,
en fait.
Hein,
voilà.
C'est ça.
Donc quand on est épuisé pour un organisme qui s'avance sur des routes ravinées, qui marche avec difficulté, ce sont des souffrances dont on a peu idée et qui se sont accumulées, comme vous l'avez dit, au fil des mois.
Quasiment sans perspective d'amélioration, et ça dure et des jours et des semaines et des mois. Alors il y a l'épisode terrible de la Bérézina, il faut en dire un mot, c'est devenu un nom commun, la Bérézina, on dit oh là là, dès qu'on parle d'une catastrophe.
Oui. Mais... Alors c'est un mot qui en fait est ambigu, puisque nous, nous avons sur ce terme-là qui représente la petite rivière en fait par laquelle la Grande Armée a traversé, pour nous c'est un symbole de désastre absolu. En réalité,
c'est pas ce qui s'est passé
en
vraiment,
réalité,
puisque...
voilà, Napoléon sauve son armée à la Bérézina. Sur un plan militaire, c'est une victoire, mais le coût humain est terrible.
Il arrive à faire passer. Il faut expliquer que il faut construire deux ponts en fait. Hein.
Voilà, deux ponts qui seront construits par les pontonniers du général Eblé. Mm-hmm. 400 pontonniers, dont la plupart vont mourir en fait, soit pendant la construction des ponts, soit quelques jours après.
Parce qu'ils doivent descendre dans l'eau glacée.
Dans l'eau glacée. Le problème qui se pose et ce qui montre qu'il ne faisait pas si froid que cela, c'est que la rivière n'est pas gelée. Donc on ne peut pas traverser la rivière, il faut construire des ponts. Mais il fait très froid tout de même et on a des blocs de glace aux arêtes épouvantablement tranchantes. Et ces hommes vont pendant 6-7 heures d'affilée travailler dans cette eau glacée à la construction de ces deux ponts.
Et
ça a été terrible. Ça a été terrible.
On peut dire qu'ils se sont sacrifiés pour laisser passer les autres.
Absolument, absolument. Oui.
Il y a un côté quasiment kamikaze.
C'est
là,
un geste d'héroïsme. Oui, absolument.
Alors, non seulement tout ça est très dur sur un plan humain, mais sur un plan stratégique, c'est une catastrophe totale. C'est-à-dire qu'on est très très loin de ce qu'espérait Napoléon là.
Sur l'ensemble de la campagne, incontestablement. Si on revient sur la Bérézina, c'est malgré tout un repli tactique qui a permis de sauver, comme le disait Marie-Pierre Rey, l'essentiel, c'est-à-dire le commandement, la maison de l'empereur, les principaux officiers et une part non négligeable de l'armée.
Oui, oui, la Bérézina, paradoxalement, est un épisode plutôt positif. Mais ce que je voulais dire, c'est que cette retraite, évidemment...
C'est justement ce qui est très caractéristique, c'est que la Bérézina, dans le vocabulaire français, a fini par symboliser l'ensemble de la retraite. Et finalement, a symbolisé cette débâcle qui a conduit les soldats à ne revenir qu'à quelques milliers, à refranchir le Niémen. Ils ne sont que quelques milliers en bon ordre. Il y en a bien d'autres qui refranchissent le Niémen, mais ceux qui sont en bon ordre, c'est quelques milliers seulement.
Oui, alors en fait, ce qui explique aussi cette mauvaise image du mot Bérézina, c'est le fait que des milliers de civils derrière vont mourir en fait, écrasés sur les ponts au moment où ils vont s'efforcer de traverser à la suite de la Grande Armée. Donc la Bérézina, c'est une victoire militaire et une catastrophe humanitaire, pourrait-on dire.
Et voilà. Alors nous allons bien sûr détailler tous ces aspects terribles de la retraite de Russie. Dans un instant, nous écoutons ce que Chateaubriand à en dire.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Et Franck vous propose maintenant sur Europe 1 un extrait des Mémoires d'Outre-Tombe.
Eh oui, c'est un repentir pour tout vous dire, Julia. Ah. C'est ma retraite à moi. Parce que j'avais prévu, on a énormément de témoignages, bien entendu, sur cette retraite de Russie, et notamment des lettres envoyées par un certain nombre de ceux qui l'ont vécu. On va y venir dans un instant. Et puis, je me suis dit hier soir, mais il faudrait quand même que j'aille voir ce que disait Chateaubriand, parce que j'avais le souvenir, c'est un vieux souvenir d'étudiant, de quelques pages un peu enlevées sur la question. Je me suis dit, non, c'est trop beau, donc je vais plutôt lire du Chateaubriand, je vais lui céder la parole, en quelque sorte. « À chaque instant, écrit-il, retentissait la détonation des caissons qu'on était forcé d'abandonner. Les vivandiers jetaient les malades dans les fossés. Des prisonniers russes qu'escortaient des étrangers au service de la France furent dépêchés par leurs gardes, tués d'une manière uniforme, leur cervelle était répandue à côté de leur tête. Bonaparte, alors il faut vous y habituer, évidemment, pour Chateaubriand, Napoléon, c'est Bonaparte, hein, ça, c'est un problème politique. Bonaparte avait emmené l'Europe avec lui, toutes les langues se parlaient dans son armée, toutes les cocardes, tous les drapeaux s'y voyaient, l'Italien forcé au combat s'était battu comme Français, l'Espagnol avait soutenu sa renommée de courage, Naples et l'Andalousie n'avaient été pour eux que les regrets d'un doux songe. On a dit que Bonaparte n'avait été vaincu que par l'Europe entière, et c'est juste, mais on oublie qu'il n'avait été vaincu qu'à l'aide de l'Europe, de force ou de gré son allié. Nous laisserons à Chateaubriand son point de vue sur la question. La Russie, écrit-il, résista seule à l'Europe guidée par Napoléon. La France, restée seule et défendue par Napoléon, tomba sous l'Europe retournée, mais il faut dire que la Russie était défendue par son climat et que l'Europe ne marchait qu'à regret sous son maître. La France, au contraire, n'était préservée ni par son climat ni par sa population décimée, elle n'avait que son courage et le souvenir de sa gloire. Indifférent aux misères des soldats, c'est Chateaubriand qui parle, Bonaparte n'avait souci que de ses intérêts. Lorsqu'il campait, sa conversation roulait sur des ministres vendus, disait-il aux Anglais, lesquels ministres étaient fomentateurs de la nouvelle guerre, ne se voulant pas avouer que cette guerre venait uniquement de lui. Le duc de Vicence, qui s'obstinait à racheter un malheur par sa noble conduite, éclatait au milieu de la flatterie au bivouac. Il s'écriait « Que d'atroces cruautés, voilà donc la civilisation que nous apportons en Russie ?» Aux incroyables dires de Bonaparte, il faisait un geste de colère et d'incrédulité et se retirait. L'homme, que la moindre contradiction mettait en fureur, souffrait les rudesses de Caulaincourt en expiation de la lettre qu'il avait jadis chargée de porter à Ettenheim. « Quand on a commis une chose reprochable, le ciel en punition vous en impose les témoins. » En vain, les anciens tyrans les faisaient disparaître. Descendus aux enfers, ces témoins entraient dans les corps des furies et revenaient. Alors, il explique un peu comment commence cette retraite de Russie. Et là, on entre dans le vif des affaires. Cette suite d'affaires dans les mêmes lieux, ces couches de morts ajoutées à des couches de morts, écrit-il, ces batailles doublées de batailles auraient deux fois immortalisé des chants funestes si l'oubli ne passait rapidement sur notre poussière. Qui pense à ces paysans laissés en Russie? Ces rustiques sont-ils contents d'avoir été à la grande bataille sous les murs de Moscou? Il n'y a peut-être que moi qui, dans les soirées d'automne, en regardant voler au haut du ciel les oiseaux du Nord, me souvienne qu'ils ont vu la tombe de nos compatriotes. Des compagnies industrielles se sont transportées au désert avec leurs fourneaux et leurs chaudières. Les eaux ont été converties en noir animal. Qu'ils viennent du chien ou de l'homme, le vernis est du même prix et il n'est pas plus brillant, soit qu'il ait été tiré de l'obscurité ou de la gloire. Voilà le cas que nous faisons des morts aujourd'hui. Voilà les rites sacrés de la nouvelle religion. Heureux compagnons de Charles XII, vous n'avez point été visités par des hyènes sacrilèges. Pendant l'hiver, l'hermine fréquente les neiges virginales et pendant l'été, les mousses fleuries de Poultava.
Sur Europe 1, extrait une nouvelle fois de la messe solennelle de Beethoven, Franck.
Le 6 novembre 1812, écrit Chateaubriand, le thermomètre descendit à 18 degrés au-dessous de zéro. Tout disparaît alors sous la blancheur universelle. Les soldats sans chaussures sentent leurs pieds mourir, leurs doigts violâtres et raidis laissent échapper le mousquet sans dont le toucher brûle, leurs cheveux se hérissent de givre, leurs barbes de leur haleine congelée, leurs méchants habits deviennent une casaque de verglas, ils tombent, la neige les couvre, ils forment sur le sol de petits sillons de tombeaux. On ne sait plus de quel côté les fleuves coulent, on est obligé de casser la glace pour apprendre à quel orient il faut se diriger. Égarés dans l'étendue, les divers corps font des feux de bataillons pour se rappeler et se reconnaître, de même que des vaisseaux en péril tirent le canon de détresse. Les sapins changés en cristaux immobiles s'élèvent çà et là, candélabres de ces pompes funèbres, des corbeaux et des meutes de chiens blancs sans maître suivaient à distance cette retraite de cadavres.
Le récit de Franck Ferrand.
Un récit qui, je vous le rappelle, est un extrait des mémoires d'outre-tombe de Chateaubriand, Franck.
Dans des nuits de 16 heures, battues des rafales du nord, on ne savait ni où s'asseoir ni où se coucher. Les arbres jetés bas avec tous leurs albâtres refusaient de s'enflammer. À peine parvenait-on à faire fondre un peu de neige pour y démêler une cuillerée de farine de seigle. On ne s'était pas reposé sur le sol nu que des hurlements de cosaques faisaient retentir les bois. L'artillerie volante de l'ennemi grondait. Le jeûne de nos soldats était salué comme le festin des rois lorsqu'ils se mettent à table. Les boulets roulaient leur pain de fer au milieu des convives affamés. À l'aube, que ne suivait point l'aurore, on entendait le battement d'un tambour drapé de frimas ou le son enroué d'une trompette. Rien n'était plus triste comme cette Diane lugubre appelant sous les armes des guerriers qu'elle ne réveillait même plus. Le jour grandissant éclairait des cercles de fantassins raidis et morts autour des bûchers expirés. Les grandes armées russes suivaient la nôtre. Celle-ci était partagée en plusieurs divisions qui se subdivisaient en colonnes. Le prince Eugène commandait l'avant-garde, Napoléon le centre, l'arrière-garde le maréchal Ney. Retardés de divers obstacles et combats, ces corps ne conservaient pas leur exacte distance. Tantôt ils se devançaient les uns les autres, tantôt ils marchaient sur une ligne horizontale, très souvent sans se voir et sans communiquer ensemble, faute de cavalerie. Des tauridiens montés sur de petits chevaux dont les crins balayaient la terre n'accordaient de repos ni jour ni nuit à nos soldats harassés par ces temps de neige, ces temps comme les mouches, hein, de neige. Le paysage était changé. Là où l'on avait vu un ruisseau, on retrouvait un torrent que des chaînes de glace suspendait aux bords escarpés de sa ravine. « Dans une seule nuit, écrit Bonaparte, c'est dans les papiers de Sainte-Hélène, on perdit 30 000 chevaux. On fut obligé d'abandonner presque toute l'artillerie, forte alors de 500 bouches à feu. On ne put emporter ni munitions ni provisions. Nous ne pouvions, faute de chevaux, faire de reconnaissance ni envoyer une avant-garde de cavalerie reconnaître la route. Des milliers de soldats périrent ainsi. Les Polonais sauvèrent quelques-uns de leurs chevaux et peu de leur artillerie, mais les Français et les soldats des autres nations n'étaient plus les mêmes hommes. La cavalerie a surtout beaucoup souffert. Sur 40 000 hommes, je ne crois pas qu'il en soit échappé 3 000. Ça, c'est sous la plume de Napoléon. Et là, Chateaubriand pose la question. Et vous, qui racontiez cela sous le beau soleil d'un autre hémisphère, n'étiez-vous que le témoin de tant de maux ?
Credo sur Europe, un nouvel extrait de la messe solennelle de Beethoven.
Que de souffrances endurées par les survivants de cette grande armée. Combien de survivants, Jacques-Olivier Boudon, finalement ?
C'est une question difficile, dont la réponse est difficile. J'estime personnellement qu'il y a environ un homme sur deux qui est resté en Russie. 200 000 probablement pendant les combats et la retraite, et puis encore 100 000 qui meurent dans les geôles russes parmi les 200 000 prisonniers
et
qui
voilà,
ont été faits à l'issue de la campagne.
Entendu.
Il y a énormément de prisonniers, entre 150 et 200 000 prisonniers. Si on part du principe que la grande armée en juin et avec les renforts qui sont arrivés, c'est 600 000 hommes qui sont entrés dans l'Empire russe. Chiffre qui a été contesté notamment par Napoléon, qui lui dira il n'y a finalement que 350 000 hommes qui sont entrés, ce qui lui permet de faire état de pertes moindres. Mais il n'y a aucune raison de penser que l'immensité qui a été décrite en juin n'était pas présente. Si on part de ce principe-là, on peut estimer à environ 300 000 hommes le nombre de soldats qui sont restés, qui sont morts pendant la campagne de Russie.
Alors il y a des prisonniers qui sont faits prisonniers par les militaires russes. Il y en a aussi qui sont tout simplement les prisonniers des paysans russes et qui subissent vraiment des mauvais traitements. Là, on peut dire, Marie-Pierre Rey.
Oui, il y a à la fois des prisonniers faits par l'armée régulière, des prisonniers qui sont faits par l'armée régulière, c'est-à-dire les Cosaques, qui sont souvent mis à mort immédiatement ou remis aux communautés villageoises qui vont là les mettre à mort dans des conditions absolument apocalyptiques. On a des récits d'hommes empalés, brûlés vifs, enterrés vivants qui sont en fait des mises à mort dans des rites païens comme s'il s'agissait en réalité de mieux combattre encore celui que la propagande russe définit comme l'antéchrist. Napoléon est perçu comme un antéchrist, d'où cette...
C'est le diable qui a pris possession de la Russie.
Voilà, d'où cette violence extrême. Mais à contrario, il faut noter quand même que nombre de prisonniers qui seront déportés d'ailleurs pourront quand même revenir vivants. Dès la fin de l'année 1813, Alexandre Ier accorde une amnistie aux prisonniers, avant même la signature en fait du traité de Paris, qui permet à ces hommes encore vivants de rentrer, voire de rester sur place en hommes libres. Et c'est tout le paradoxe de cette campagne de Russie, c'est que finalement, du côté russe, elle n'engendre pas de ressentiment à l'égard des Français, au point que voilà, ces prisonniers rendus hommes libres pourront rester sur place. Et ça, c'est quelque chose d'important à noter.
Et sur ce premier paradoxe vient s'en greffer un second, c'est que les héros, si je puis dire, de la Grande Armée et qui ont réussi à survivre à ces épouvantables catastrophes deviennent alors vraiment des héros, cette fois AUTS, deviennent les défenseurs de l'épopée napoléonienne.
Oui, parce que les survivants ont vraiment eu le sentiment de vivre une expérience extrême.
Ah, c'est le moins qu'on puisse dire.
Et ils ont voulu raconter. Et c'est ce qui explique qu'il y ait autant de mémoires sur la campagne de Russie. Les premiers à écrire vont publier dès 1814. C'est le cas d'Eugène Labaume, par exemple. Et puis, il y aura bien sûr Philippe de Ségur qui produit une dizaine d'années plus tard son histoire de Napoléon et de la Grande Armée pendant la campagne de Russie, qui est en réalité, qui va être repris comme le deuxième volume de ses mémoires. Donc, il y a une série de récits. Et évidemment, aussi, les témoins vont se contredire. Par exemple, Ségur est contredit par Gourgaud qui lui dit « Vous racontez des balivernes ». Et l'affaire va d'ailleurs aller très loin puisque les deux hommes vont se battre en duel. Gourgaud étant, considérant que les éditions suivantes ne tiennent pas compte des remarques qu'il a faites. Et si on prend un historien, un mémorialiste comme Marbeau, il est aussi très critique à l'égard de la vision qu'ont donné les premiers témoins de cette campagne. Donc on va se bagarrer après la campagne entre témoins, mais ce qui ressort malgré tout de plus saillant, ce sont tous ces témoignages qui relèvent pratiquement tous les conditions extraordinairement difficiles de la retraite, ces fantômes qui reviennent vers le pays, qui tombent, qui sont brûlés dans les maisons parce qu'ils ont allumé des grands feux. On a des scènes, et ce que raconte Chateaubriand à cet égard retrace bien l'extraordinaire tragédie qu'a représenté cette retraite.
Alors ça, ce sont les mémoires, les récits après coup. Il y a également eu, en tout cas pour toute la première partie de la campagne, parce qu'évidemment, plus on avance dans la retraite et moins il y a de lettres, mais il y a ces lettres de la campagne de Russie que vous présentez aux éditions Pierre de Taillac, qui sont des instantanés en quelque sorte. On aime beaucoup, quand on est historien, avoir évidemment ce genre de récits pris sur le vif par ceux-mêmes qui sont en train de vivre l'événement.
Alors ces lettres, elles sont écrites par des soldats, par des officiers, souvent d'ailleurs lorsqu'ils sont à l'arrêt. Il y a beaucoup de lettres de Moscou par exemple, il y en aura de Smolensk, et ces lettres, on en possède un certain nombre parce qu'elles ont été interceptées par les Russes, par les Cosaques, on l'évoquait tout à l'heure, et donc elles sont restées dans les archives russes. Et puis on en a aussi qui ont été captées par la censure française parce que Marais, qui était à Vilna le représentant de Napoléon, ne voulait pas laisser passer des informations qui auraient pu ne pas donner le moral aux Français. Donc on va capturer ces lettres, on va les censurer. Et puis il y a quand même aussi des lettres qui sont arrivées à leur destinataire et que l'on retrouve chez des particuliers ou qui ont déjà été publiées.
Alors par exemple, voilà ce qu'un jeune lieutenant ingénieur géographe du Grand Quartier Général écrit à sa mère de Smolensk le 9 novembre. « Ma chère maman, dit-il, alors il lui raconte un peu tout ce qui se passe, il dit « L'armée a manqué de pain sur la route, mais elle avait en abondance des chevaux morts de fatigue. Et je t'assure qu'un morceau de cheval coupé par tranches minces et passé dans une poêle avec un peu de beurre ou de graisse n'est pas un mauvais à manger. À Vyazma, nous nous sommes régalés d'une fort bonne fricassée de chat. À 5, nous avons mangé 3 beaux chats. » Qui était excellent.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Triste, triste colonne, le vent souffle et la cloche sonne. Tombe, tombe, la neige en tombe, fait une tombe blanche.
Serge Lama sur Europe 1 qui nous interprète la retraite de Russie, Franck.
Non, mais loin de la messe solennelle de Beethoven.
Ah oui, très loin.
C'est le même sujet.
Autre registre.
Alors, j'aimerais qu'on revienne sur les blessures, qu'elles soient physiques ou morales, infligées à tous ces soldats. Bien sûr, beaucoup sont morts. et ont été abandonnés dans l'immensité russe, mais certains ont survécu. Ils rentrent amputés pour certains, ils rentrent blessés gravement.
Oui, les blessures seront vraiment de grande ampleur. Il y a beaucoup de membres amputés dus évidemment au froid. Il y a aussi des hommes qui deviennent sourds du fait des canons, qui deviennent aveugles du fait de la blancheur de la neige. Et puis il y a tous ces traumatismes psychiques.
Et c'est ça. Voilà. À l'époque, on en parlait évidemment moins qu'aujourd'hui.
Bien
aujourd'hui,
sûr.
On créerait des cellules psychologiques.
Absolument, oui. Alors, il est difficile pour l'historien de les repérer, de les cerner, mais on a quand même un certain nombre de témoignages, et en particulier un cas très bien étudié par Stéphane Calvet dans ses travaux sur les officiers charentais, à partir du cas d'un lieutenant, d'un jeune Saint-Cyrien, qui a été enfermé à Charenton, étudié par Esquirol, le grand aliéniste, et qui se rendra compte que ce jeune homme est devenu fou à cause des traumatismes qu'il a subis et qu'il a une phobie de la couleur blanche. Donc ça, c'est un cas très concret, mais on a beaucoup de troubles psychiatriques repérés quand même, des gens dont l'humeur est en permanence irascible, des gens dépressifs. Il y a beaucoup, beaucoup de traumatismes psychiques qui ne disent pas leur nom, mais qui sont en réalité très présent au sein de ces rescapés.
C'est lié évidemment aux souffrances endurées, c'est lié aux souffrances dont ils ont été témoins aussi. On parle notamment de cas d'anthropophagie. Est-ce qu'il y a eu du cannibalisme dans cette campagne ?
Oui, sans hésitation aucune, même si ça a été longtemps un sujet tabou. Les sources françaises en témoignent, les sources russes également. Et on mesure ce que cet acte tabou par excellence pouvait signifier dans une civilisation qui est encore très chrétienne. C'est quelque chose qui est inconcevable. Et évidemment... on n'en parle que par rumeur. On ne confesse jamais qu'on a mangé soi-même de la chair humaine. On confesse dans les sources l'avoir vu, en avoir entendu parler. C'est vraiment le tabou ultime.
Et c'est un tabou qui est resté jusqu'à des générations très récentes de chercheurs, bien sûr.
Oui, il y a un officier polonais qui dit avoir goûté de la viande humaine, évidemment. L'avoir rejeté. Mais que peut-on savoir de ce que ces hommes ont véritablement fait ? C'est vrai aussi, d'ailleurs, pour tout ce qui s'est passé. Comment expliquer qu'un certain nombre survivent et pas d'autres ? Alors, on a quelques éléments d'explication. Certains étaient mieux couverts, mieux plus résistants. Mais quels actes ont-ils commis ? Quelles actions ont-ils commises pour avoir survécu ? On sait qu'il y a eu beaucoup de vols, de meurtres pour s'emparer de nourriture, pour s'emparer de vêtements, pour pouvoir se chausser, voire pour s'emparer d'un cheval. Donc, c'est une armée qui est complètement déshumanisée. Une armée qui s'était présentée comme libératrice, comme porteuse des valeurs de la Révolution française, devient une armée sans visage, une armée complètement déshumanisée.
Et c'est un sauve-qui-peut individuel en réalité.
On comprend le titre de votre ouvrage, Marie-Pierre, l'effroyable tragédie. Je crois qu'on a un peu oublié l'ampleur extraordinaire des dommages et des souffrances.
Oui, c'est pour cela en fait que j'ai donné ce titre, pour attirer l'attention sur cette dimension, à mes yeux trop souvent occultée, négligée par l'historiographie, qui a représenté cette campagne souvent de façon très abstraite, alors qu'en réalité, plusieurs centaines de milliers d'hommes, combattants et civils aussi, n'oublions pas les civils, ont souffert de cette campagne.
Alors je ne reprends pas à mon compte la question que posait le vicomte de Chateaubriand tout à l'heure, mais tout de même, Jacques-Olivier Boudon, est-ce que Napoléon n'a pas envisagé tout ça d'un peu loin tout de même, d'autant plus que lui va très vite repartir pour Paris et à très grande vitesse, donc il abandonne derrière lui ces masses d'hommes souffrants.
Au début du mois de décembre, il choisit en effet de regagner rapidement Paris parce qu'il a compris que les forces étaient insuffisantes pour repartir au combat, donc il va vouloir remobiliser. Et à partir de ce moment-là, il aura comme stratégie de sous-estimer ce qui s'est passé en Russie, d'attribuer, dès les premiers discours qu'il fait, par exemple, devant les députés, il attribue la défaite, enfin, il ne parle d'ailleurs pas de défaite, il attribue les conditions dans lesquelles l'armée est rentrée au général hiver, aux conditions climatiques. Et il n'en démordra pas à Sainte-Hélène. On y faisait allusion à travers le témoignage de Chateaubriand. À Sainte-Hélène, il reconstruit une histoire de la campagne de Russie qui ne fait place qu'aux conditions climatiques, comme si seuls des événements extérieurs pouvaient vaincre l'armée de Napoléon.
Et responsable, mais pas coupable.
Et c'est finalement ce qui va conduire à ce que la légende napoléonienne sous-estime la campagne de Russie, n'en retienne qu'un certain nombre d'éléments valorisants et oublie la tragédie qu'a été cette campagne.
Alors on se rend compte, et je suis ravi qu'on ait eu le temps, vous voyez qu'on a bien fait de faire cette deuxième émission, parce qu'on a eu le temps de l'expliquer aujourd'hui, ce qu'on n'aurait pas pu faire si on avait été obligé vais tout dire en une seule fois, c'est qu'on a sur cette campagne énormément d'images fausses et faussées, délibérément ou pas. Nous avons vu que le mythe de la Bérézina, c'est la catastrophe totale, alors que la Bérézina serait plutôt un épisode de sauvetage et plutôt positif. Et qu'à côté de ça, évidemment, on a cette image grandiose, presque grisante, de la grande armée rentrant de Russie, alors qu'en fait, nous venons de voir, et je pense que nous l'avons démontré, que c'était une épouvante, tout simplement. Donc, peut-être utile de remettre certaines pendules à l'heure. Jacques-Olivier Boudon, Napoléon et la campagne de Russie, donc en 1812. Certes, nous en célébrons à partir de demain le bicentenaire. C'est édité chez Armand Collin. Et puis Marie-Pierre Rey, L'effroyable tragédie, une nouvelle histoire de la campagne de Russie. C'est dans la collection Au fil de l'histoire des éditions Flammarion. Merci beaucoup à vous deux d'être venus. Alors j'allais vous dire, on va faire une troisième émission, oui, si vous voulez, parce qu'il s'est passé encore tellement d'événements en 1813 et en 1814 que, au-delà de la campagne de Russie, nous aurons encore, je crois, quelques sujets à évoquer ensemble, si vous êtes d'accord pour
volontiers,
le faire.
Bien sûr.
Et merci à notre troisième invité du jour qui était Chateaubriand, j'en suis pas peu fier.